Vous écoutez France Culture.
Magazine de l'environnement, on parle de cinéma ce matin. Deux films sont actuellement à l'écran, deux documentaires qui ont pour sujet commun le monde rural. Ils sont tous les deux très sensibles, il faut les voir absolument, on s'entretient avec leurs réalisateurs. Sophie Audier, on hésite presque à aborder le film avec vous, tant on ne veut pas le déflorer, tant on veut respecter la finesse, la délicatesse avec laquelle vous-même vous avez abordé le sujet. C'est votre premier film, je crois. Et déjà, le titre attire l'œil et l'oreille. Les chèvres de ma mère. Vous êtes allé filmer votre mère, son troupeau, à une époque qui était décisive pour elle. Alors, peut-être que pour vous permettre de commencer à raconter un peu, on ne va pas tout raconter évidemment, mais on va parler du sous-titre que vous avez inscrit, en tout cas sur le dossier de presse. Peut-on aujourd'hui encore transmettre la liberté ?
Oui, ça a été un petit peu ma motivation, je pense, quand j'ai décidé de faire ce film. En fait, ma mère s'est installée dans les Gorges du Verdon dans les années 70. C'était pas vraiment un retour à la nature, ça s'est pas passé comme ça. Mais il se trouve qu'elle a très rapidement, au départ c'était une communauté, ils ont très rapidement décidé d'être agriculteurs et de faire de l'élevage. Et à l'époque, on s'installait beaucoup plus facilement que maintenant en fait. Il suffisait d'avoir la surface agricole minimum. Et puis d'avoir un certain nombre de chèvres. Donc ça s'est passé comme ça. Ils ont acheté des chèvres qu'ils ont amenées en deux chevaux. Et ils ont construit une petite fromagerie dans un coin de la maison. Et ils ont appris à faire du fromage par eux-mêmes en faisant d'abord des mauvais et puis des plus en plus bons. Je crois que ma mère faisait des très bons fromages à la fin. En tout cas, ils étaient réputés. Et puis, elle a eu aussi, enfin, je vais dire elle, parce que tout le monde est parti et elle est restée. Donc, c'est vrai que c'est devenu les chèvres de ma mère. Elle habite dans un endroit qui est quand même très sauvage, isolé, avec une énorme surface. Et les chèvres avaient l'habitude de brouter en totale liberté. Elles revenaient le soir, pas en automne, mais voilà. Et puis, il y a eu un moment donné où il y a eu la normalisation avec ses contraintes et ses règles. Donc elle a dû un peu aménager. Et surtout, ce qu'elle n'a pas fait, c'est la traçabilité avec les bouclages.
Elle a quand même été obligée d'adopter un certain nombre de normes ?
Oui.
Pourquoi ?
Elle a été obligée parce que autrement elle n'aurait pas eu l'autorisation de vendre ses fromages, en fait. Il y a plusieurs sortes d'autorisations, en fait. On peut demander une dérogation qui nous permet de vendre dans un périmètre, je pense que c'est de 60 ou 80 km en vente semi-directe, enfin on a un pourcentage. Et autrement, on peut aussi avoir l'agrément qui nous permet de vendre partout en fait. Donc ce qu'elle a fait, elle, c'est juste les modifications minimum, mais c'était quand même à l'époque de grosses modifications pour pouvoir avoir une dérogation et vendre autour.
Et elle a déjà vécu ça comme une entaille dans sa liberté ?
Oui, même si sans doute il y a quand même des normes qui sont nécessaires, mais enfin, il faut quand même savoir que ces normes-là, elles sont faites aussi pour des troupeaux qui sont beaucoup plus importants, pour une commercialisation un peu plus de masse. Et donc, dans ces différentes règles, il y a des règles qui ne sont pas adaptées à des tout petits troupeaux qui vivent en liberté et qui sont... Ça l'a heurté un peu. Et moi, ça m'a heurtée.
Vous étiez enfant ?
À l'époque, c'était en 97, donc j'avais bien presque 30 ans.
La normalisation. Ah oui, très récent.
ça, la normalisation, c'était en 97. Moi, je l'ai très mal vécu. Même si j'étais plus sur le plateau, mais tout d'un coup, cette nécessité de, dans un lieu où on pouvait très bien faire les choses autrement, et où on n'avait pas besoin de tout ce contrôle, on n'avait pas besoin, on perpétuait un savoir-faire qui s'était fait de génération en génération. Tout d'un coup, cette mainmise de l'État et cette volonté de tout chiffrer.
Administrer,
voilà. Ça, je l'ai très mal vécu. Et l'idée d'un film a commencé à germer à ce moment-là.
Mais le cœur du film, ça se passe plus tard. C'est le moment où Maggie, votre mère, décide, mais là encore plus ou moins contrainte et forcée, si j'ai bien compris, de céder son troupeau, tout simplement pour avoir droit à une retraite.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un agriculteur ne peut pas toucher sa retraite s'il ne cède pas ses terres et son troupeau, enfin s'il ne cède pas sa surface minimum agricole. Il a le droit de conserver un cinquième. Autrement, il est considéré comme cotisant solidaire et continue à payer les charges. Et on considère qu'il continue à travailler, donc il n'a pas de retraite.
Elle avait toujours envisagé de se séparer de son troupeau ?
J'imagine qu'elle avait envisagé que ça arriverait à un moment donné, mais entre ce qu'on envisage et le moment où ça se passe, c'est toujours différent. Donc même si elle l'avait envisagé, je crois que c'est à ce moment-là que c'est devenu concret et que les choses se sont mises en place. Et qu'il y a eu une prise de conscience, je pense.
Au départ, Maggie, elle a fait face assez sereinement, on va dire. C'est-à-dire, elle a tout de suite pensé, d'accord, je vais transmettre. Et elle a trouvé une jeune femme qui voulait s'installer et qui avait envie d'apprendre à élever des chèvres et à faire du fromage. Et ce que vous avez filmé, Sophie Audier, c'est ce long processus de la transmission et de la cession.
Oui. Il y a eu deux temps, en fait. La première chose, c'est qu'Anne-Sophie, elle n'est pas arrivée tout de suite. Donc, il y a eu un premier moment où ma mère m'a annoncé qu'elle allait prendre la retraite et elle s'inquiétait de son troupeau parce que moi, je n'allais pas reprendre. C'était quelque chose qui était évident.
Vous dites évident, mais vous n'en aviez jamais vraiment parlé.
Non, on n'en avait pas parlé. Entre nous, on n'en a jamais vraiment parlé, même à ce moment-là, même pendant le film. C'est quelque chose qui restait un petit peu inabordable, je pense. Et donc, du coup, elle s'inquiétait pour ses chèvres. Et je pense que là, il y a quelque chose qui a un petit peu commencé. Moi, j'ai eu envie de filmer. Je me suis dit que là, il fallait que je garde une trace. Et puis très vite, en fait, ça a été un peu une chance. C'est qu'Anne-Sophie est la nouvelle compagne du jeune voisin. Et donc, elle arrivait sur le plateau. Elle avait envie et besoin de s'installer. Et donc, c'est vrai que l'idée, c'est... Elle s'est dit, tiens, je vais demander à Maggie parce qu'elle prend la retraite. Et puis, elles ont sympathisé. Et Maggie a pu transmettre ses chèvres.
Maggie a pu transmettre ses chèvres. Il y a une heure et demie de film, mais il y a certainement beaucoup plus d'allées, venues, d'hésitations, de retournements, d'inquiétudes, de désirs et de retours en arrière. Et ce film, il a quelque chose de très liquide parce qu'il suit tous ces mouvements imperceptibles et sans jamais juger, sans jamais critiquer. Mais c'est extraordinaire comme on voit ce que ça implique, ce que ça représente, l'extraordinaire difficulté que c'est.
Oui, c'est vrai qu'au départ, il y avait un enthousiasme, parce que ma mère était contente, parce que les chèvres allaient pouvoir rester sur le plateau. Moi, j'étais contente aussi, j'étais contente pour ma mère, j'étais contente pour les chèvres, j'étais rassurée aussi de... Et puis, en fait, entre l'idée de transmettre et l'acte, il y a quand même tout un chemin. Et c'est vrai que à partir du moment où il a fallu engager le processus de séparation, parce que c'est ça qui s'est passé, ma mère est passée par toutes sortes d'étapes pour accepter l'idée à la fois de quitter son troupeau, mais c'était aussi plus que ça, en fait, parce qu'elle devait quitter toute une idéologie, parce qu'elle transmettait pas quelqu'un qui s'est installé dans le même état d'esprit qu'elle, qui s'installait pas à la même époque qu'elle et qui s'installait pas avec les mêmes possibilités qu'elle. Donc Anne-Sophie, c'est une jeune agricultrice qui part de rien, juste avec son désir de s'installer. Et on sait à quel point c'est pas facile de s'installer quand on est un jeune agriculteur sans terre.
Et ben justement, moi je trouve qu'une des très grandes qualités de votre film, c'est que On ne sait pas à quel point c'est difficile. Et dans le film, on le voit.
Oui. C'est difficile parce que, déjà, il faut qu'il trouve une terre, enfin, un lieu, un espace. Et puis, c'est difficile parce que, avec les... J'appelle ça la normalisation, mais ça veut dire qu'ils ont besoin d'avoir des bâtiments, des locaux, et pour les animaux et pour la transformation fromagère aux normes. Ça demande quand même des sacrés investissements. Que pour ces investissements, ils ont besoin d'aide. À partir du moment où ils ont besoin d'aide, ils rentrent dans un système qui les contraint, mine de rien. Et puis, qu'il y a ces aberrations aussi. En plus, on leur donne leurs aides 3 mois après qu'ils soient installés. Ça veut dire qu'on les oblige à emprunter. Et donc, pour emprunter, il faut que l'exploitation soit viable. C'est tout un système qui est mis en place. Et donc, c'est pour ça que je dis que Maggie a dû renoncer à son idéologie, parce qu'elle avait défendu beaucoup de choses, et notamment sa liberté. Elle ne touchait pas de subventions, elle ne touchait pas de primes, et du coup, c'est ça qui lui permettait aussi d'être indépendante et de ne pas répondre à toutes les règles, notamment celles du bouclage. Et donc, voilà. Donc ça, je crois que ça a été aussi très difficile pour elle, d'avoir pu construire pendant toute sa vie un système qui lui convenait et où elle pouvait défendre ses idéaux, et que tout d'un coup, ça la rattrape, ça s'engouffre dans l'administration, c'est engouffré dans le plateau par le biais d'Anne-Sophie. Mais...
à son corps défendant, enfin. Ouais. On sent bien qu'Anne-Sophie, cette jeune femme, c'est pas du tout qu'elle soit partisane de ce nouveau système. Elle est contrainte par ce nouveau système, elle n'a pas le choix.
Non, elle n'a pas le choix. Après, c'est vrai qu'on a toujours le choix. C'est dire qu'on n'a pas le choix, c'est... Mais on va peut-être dire qu'elle avait des nécessités aussi familiales, elle avait des nécessités... Et puis, peut-être qu'on peut défendre des choses quand on les connaît. Et Anne-Sophie, elle a vraiment eu un parcours scolaire. Elle a fait un BEP, puis après elle est rentrée à l'école de Carbejane. Et je ne suis pas sûre que dans ce parcours-là, elle ait été sensibilisée. Et donc, voilà, donc c'est peut-être après d'expérience qu'elle va pouvoir faire d'autres choix. Mais en tout cas, à ce moment-là, elle n'avait pas le choix.
Oui, l'impression qu'on a quand on la voit se débattre avec tous ces dossiers qu'elle doit remplir, toutes ces projections sur un avenir qu'elle doit faire, elle doit faire une sorte de business plan, imaginer combien elle va vendre de litres de lait en une année, enfin des choses complètement hallucinante, et on a l'impression que c'est autant d'écrans entre elle et la réalité, entre elle et sa relation avec les chèvres, qui pourtant arrivent très vite. C'est-à-dire, très vite, on sent qu'elle s'intéresse, qu'elle est attirée par les animaux, par le côté vivant du travail.
Mon sentiment, c'est que si Anne-Sophie, elle avait eu le choix, elle aurait fait les choses de la même manière que Maggie, parce que c'est une bricoleuse. Et puis, je pense que pour habiter sur ce plateau, il faut avoir un trait de caractère. Moi, je suis convaincue que toutes les deux, elles ont quelque chose où elles se ressemblent. Et voilà, en ayant suivi Anne-Sophie, c'est vrai que si elle avait pu se passer de tout ça, elle s'en serait passée, parce que c'est pas son truc. Il y a eu un moment qui est pas dans le film, mais qui, pour moi, m'a beaucoup marquée. C'est quand elle arrivait dans le bureau de la Chambre d'agriculture pour s'installer, pour présenter son projet. La conseillère lui demandait « Mais vous avez bien reçu tous mes tableaux ?» Anne-Sophie, elle répondait « Oui, je les ai reçus, mais je ne les ai pas compris, parce que moi, je m'attendais à ce qu'on me donne des choses pour m'occuper des animaux. » Et en fait, ce qu'on lui demandait, c'est d'être gestionnaire, en fait. C'est tout le problème de ces jeunes agriculteurs, c'est qu'ils partent avec un désir, en tout cas, peut-être pas tous, hein, mais Anne-Sophie... Ce qu'elle aimait, c'est être dans la campagne, garder les moutons, c'est s'occuper des chèvres. Et elle a fait des études pour ça. Et tout d'un coup, on lui demande de gérer une exploitation, de calculer des rations pour nourrir ses animaux, de faire un plan de développement d'exploitation pour tout chiffrer. Et en même temps, elle est à des kilomètres de ça. Et donc, voilà, je trouvais ça très parlant, parce que c'était pas sa motivation. Et ça l'a jamais été, mais qu'elle est obligée pour s'installer.
Vous avez dit tout à l'heure, Sophie Audier, que l'administration s'engouffre, s'est engouffrée sur le plateau. J'aime bien ce mot, parce que l'administration s'engouffre aussi dans le film. Et tous les passages, tous les moments où on voit l'administration, ce sont des moments ubuesques.
Alors moi, je suis partie avec un parti pris au départ. J'étais vraiment contre. Et puis en fait, ce que j'ai trouvé par rapport aux personnes qui ont, de la Chambre d'agriculture qui sont dans le film, et par rapport à Gérard Dossolin de la MSA, c'est que je les ai trouvés très humains. C'est ce qui représente, en fait, qui est ubuesque. C'est plus ça, parce que c'est... vraiment, j'ai été étonnée. Ils étaient curieux, ils étaient humains. On avait des super discussions. Ouais. Mais ils ont un travail, ils ont une mission. Et c'est vrai que leur mission, elle est ubuesque au regard aussi. Et ça, c'était vraiment un parti pris dès le départ. C'était de filmer le plateau et de filmer les animaux comme des entités qui comme une matrice, comme ça, qui n'avaient absolument pas besoin de tout ça. Et de filmer les bureaux de manière cadrée, comme ça. Et c'est vrai que je voulais vraiment faire le contrepoint. Voilà, d'avoir d'un côté une nature qui a toujours vécu sans tout ça. Et tout d'un coup, une administration qui vient régir...
Oui, et vous avez raison de faire la distinction entre les personnes qui travaillent et l'administration. Mais j'ai bien dit l'administration, oui. Parce que de fait, c'est le système. Oui. Ce ne sont pas les gens qui sont à l'intérieur. Et le film qui donc montre tout ce cheminement, vous avez filmé pendant plus d'un an, près de 2 ans.
J'ai filmé 2 ans. J'ai commencé à filmer les repérages parce que je me suis dit, on ne sait jamais, les choses sont en train de démarrer. Et puis, en fait, ça a duré, c'était censé durer 1 an. Et puis, c'est l'administration. Donc, en fait, il y a eu des rebondissements, il y a eu des délais qui n'ont pas été respectés. Voilà, et on a continué, j'ai continué à filmer tout ça pendant 2 ans.
Oui, mais ce temps, il était nécessaire, effectivement, d'une certaine façon. Il s'agissait vraiment de filmer un processus.
Il était nécessaire pour 2 raisons, en fait. La première chose, c'est que vraiment, j'avais envie de montrer l'activité chevrière dans ses différentes étapes. Et en fait, ça s'inscrit dans le temps et ça s'inscrit dans les saisons. Les chèvres, elles ont des cycles. En fait, il y a le cycle de la gestation, et puis il y a la saison laitière, et puis après, il y a la saillie. Et pour moi, c'était vraiment des moments très importants de l'activité. Donc, j'avais vraiment envie de garder cette trace-là, de cette activité-là qui est très proche de la nature et qui est très respectueuse du rythme des chèvres. Et puis, j'avais aussi envie de déployer ce paysage sous toutes ces saisons, parce que moi, je le trouve tellement beau et tellement... Je suis tellement attachée à ce lieu que, pour moi, j'avais besoin de montrer aussi le passage du temps comme ça. Et puis oui, on a pris le temps parce que c'est un processus et que si on veut aller jusqu'au bout du processus, et là, on n'est même pas arrivé jusqu'au bout, parce que ça a pris encore plus de temps qu'on pensait. Eh ben, il faut prendre le temps. Je me suis vraiment donné le temps de filmer.
Vous vous êtes donné le temps, mais là encore, je reviens sur l'administration. Elle a pris du temps. Et c'est tout à fait étonnant de voir comment, dans tout ce processus que vous venez de décrire, et qui est le processus grave et important, celui du passage des saisons, celui du paysage qui se transforme, celui d'une femme qui transmet à une autre son savoir, ses bêtes, c'est-à-dire tout ça, ce sont les choses vraiment fondamentales de l'existence. Et voilà que l'administration arrive avec ses propres temporalités, ses propres décisions, exigences, et bouscule la donne. On ne va pas tout raconter, mais Maggie découvre pendant le film combien elle va toucher de retraite. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a enclenché, tout ce qu'elle a mis en route, c'est pour, au bout du compte...
Des clopinettes. Oui, il y a ça. Et puis c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que je vérifie. Mais je pense qu'entre la première fois où elle s'est renseignée pour sa retraite, c'était avant le gouvernement de Sarkozy, et il y a eu un changement. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a changé, qui fait qu'au moment où elle pensait être à la retraite, elle n'avait plus ses trimestres. Et puis, par rapport à l'administration, moi, ce que j'ai trouvé très, très douloureux pour Anne-Sophie, pour Maggie et pour moi, c'est que c'est un processus de transmission qui est quand même encadré. Et il est encadré par la Chambre d'agriculture et par la région, ça s'appelle le PIDIL, qui est fait pour que les personnes qui partent à la retraite, qui s'appellent les cédants, cèdent justement leurs terres pour que les terres agricoles ne soient pas transformées en perdues. Donc, a priori, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très bien d'avoir une volonté politique de maintenir en place les terres agricoles. La seule chose, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une transmission, et notamment dans une transmission d'animaux, la moindre des choses, c'est de s'assurer qu'au moment où on récupère les animaux, ça soit en place et que c'est un tandem. Ça veut dire qu'il y a une personne qui prend la retraite et une personne qui s'installe. Et que déjà, de prendre sa retraite affectivement, émotionnellement, c'est quelque chose de pas facile. Alors ça, c'est sûr que c'est pas du tout pris en compte. Hein. Alors qu'il y a des règles qui sont soi-disant pour le bien-être des animaux, qui sont soi-disant, puisque je pense que c'est pas le cas. Mais d'arriver à un moment donné, au moment où on transmet, que finalement, la personne qui s'installe n'est absolument pas eue la possibilité de préparer les lieux pour recevoir les animaux, je trouve que c'est juste scandaleux. Ça met tout le monde en porte-à-faux et c'est complètement déshumanisé.
Et ça a été effectivement très douloureux, puisque Anne-Sophie a découvert très tardivement, après avoir rempli très sagement et très soigneusement toutes les paperasses, tous les dossiers, après avoir répondu à toutes les questions les plus absurdes sur son plan de gestion, etc., elle découvre que non, ça lui refusait.
Oui, alors ça a été refusé parce qu'il y a une coquille, c'est un peu comme la mouche en 1984. Hein, c'est qu'à un moment donné, a été dans le projet d'Anne-Sophie, en fait, elle a dû construire, elle a dû demander un permis de construire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas demander de permis de construire tant qu'on n'a pas pu s'installer administrativement. On ne peut pas s'installer administrativement tant qu'on n'est pas passé en CDOA. Donc, la CDOA, c'est la commission d'orientation agricole qui délivre l'autorisation de s'installer et la dotation jeune agriculteur. On ne peut pas passer en CDOA si on n'a pas fait tout son projet d'installation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tout son projet d'installation a été fait sur une zone non constructible. Donc, ça veut dire qu'elle est quand même passée par beaucoup d'organismes. Donc, il y a eu la Chambre d'agriculture, le papier. C'est vrai que la Chambre d'agriculture dit qu'il faut vérifier.
Personne ne l'a aidé à vérifier.
Non, voilà, c'est ça. C'est qu'à la mairie, quand elle a demandé, personne n'a tilté. À la DDTM, c'est le même organisme qui... Alors, ce sont peut-être pas la même commission, mais quand même, la DDTM, c'est elle qui valide le passage en CDOA. Et c'est aussi eux qui accordent les permis de construire. Donc, en fait, ils ont validé un projet qui était sur une zone non constructible. Et donc, voilà. Donc, il y a eu une erreur comme ça qui fait qu'arriver au moment d'avoir enfin les permis de construire, qui étaient 2 mois avant la transmission, puisque tout ça a pris tellement de temps qu'on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas construire. Elle était dans une zone non constructible. Donc elle a dû changer son projet à toute vitesse. Là, on lui a demandé à nouveau un permis de construire alors qu'elle était pour sa fromagerie, alors que c'était à l'intérieur et qu'elle n'en avait pas besoin. Et donc, voilà, elle est repartie pour 1 an. Donc voilà, ça a duré un certain temps. Et les chèvres sont arrivées dans des bâtiments qui étaient vraiment désaffectés et qui étaient... Et Anne-Sophie, en plus, elle ne pouvait pas engager de frais parce que, comme elle a des emprunts, et notamment des emprunts bonifiés, tant que l'avenant de son plan PDE n'était pas validé, elle ne pouvait pas engager de frais. Donc, elle ne pouvait rien faire.
Dans les bâtiments désaffectés, elle ne pouvait pas amener l'eau, l'électricité ?
Non, elle a quand même acheté le foin parce que c'était le minimum, mais elle n'a pas pu aménager sa bergerie. Puis, quant à la fromagerie, c'est encore une autre histoire.
Sophie Audier, on a parlé de la préhistoire du film, là on parle de l'après-film. Mais tout de même, ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve Anne-Sophie dans un bâtiment sans eau, sans électricité. C'est comme ça que votre mère avait commencé ?
Oui. Mais c'est ça qui était. Moi, j'ai construit tout mon projet de film parce qu'on fait un scénario pour, enfin, en tout cas, un projet sur le fait que la transmission et le passage à l'Europe allaient s'incarner avec les cornadis qui enserrent les chèvres, le quai de traite, la machine à traire manuelle, la fromagerie, tout le laboratoire, tout propre et tout ça. Et qu'en fait, on s'est retrouvés dans un lieu où je pouvais même pas filmer tellement c'était sombre. Il n'y avait pas d'électricité, je pouvais pas mettre de lumière. Et puis surtout, à un moment donné, à partir du moment où à un moment donné, j'ai arrêté de filmer parce que ça... ce qu'il y avait à raconter, c'était raconté. Mais c'était surprenant et je pense que c'est très parlant.
Thank you. Dominique Marché, vous, c'est votre deuxième film qui sort ces jours-ci, à Paris et peut-être en national d'ailleurs.
Oui, il est sorti le 23, donc il y a 3 jours.
Et le premier s'intitulait Le Temps des Grâces et c'était une sorte de plongée dans l'agriculture telle qu'elle s'est transformée, métamorphosée sur une période d'une 50aine d'années avec une galerie de portraits extrêmement beaux, extrêmement touchants. Une plongée, on va dire, un peu historique peut-être. Le film que vous proposez aujourd'hui revient un peu sur ces questions de territoire. On n'est jamais loin de ces histoires de terre, d'appartenance, d'échelle aussi. Mais vous dites que vous avez voulu une approche plus géographique. Alors il s'appelle La ligne du partage des eaux. Et c'est un film dans lequel on suit, avec des méandres infinis, l'eau du bassin versant de la Loire. Et à travers l'eau, toutes ces innombrables petites frictions, rencontres, mélanges, heurts qui se produisent de l'échelle la plus microscopique jusqu'à l'échelle la plus macroscopique lorsqu'il s'agit de territoire et de partage.
Des frictions aussi, des convergences parfois, heureusement. Le film, c'est pas tant la rivière que le bassin versant, vraiment. Ouais.
Tu dis le bassin versant,
oui,
non?
Bien sûr, ah. Oui. Mais parce que le titre peut laisser croire que le film est vraiment sur la question hydrologique. C'est plutôt un motif, de la même manière que pour Le Temps des Grâces, le motif c'était la haie, le bocage. Là, c'est la rivière qui permet de remonter, on a presque envie de dire par capillarité, toutes les questions d'aménagement du territoire. Aussi bien la réforme territoriale, les aménagements de zones d'activité, les aménagements de zones pavillonnaires, et puis les questions de gouvernance, d'échelle.
Alors c'est curieux d'avoir choisi l'eau, puisque c'est justement celle qu'on ne voit pas et dont on ne parle jamais, ouais. Que même parfois on efface.
Oui, ouais, l'eau, c'est le refoulé. Et c'est troublant de voir à quel point on n'a plus conscience du réseau hydrographique et de la place qu'on occupe dans le bassin versant. La notion de bassin versant, qui était certainement évidente pour les humains jusqu'il n'y a pas si longtemps, et aujourd'hui, à cause certainement des ponts, des grandes routes, on franchit les rivières sans les voir. Et pourtant, l'eau, si on s'y intéresse, à la fois ça offre des analogies, des métaphores très riches pour comprendre le système politique, le système organisationnel, mais en même temps, concrètement, l'eau, si on s'en occupe, si on avait une bonne politique, une vraie politique de l'eau, on pourrait se passer d'avoir une politique agricole ou d'avoir une politique urbaine, parce que, en fait, toutes les questions d'aménagement du territoire sont des questions liées à l'eau. Que ce soit la question des zones inondables, la question de la qualité de la ressource en eau, la question des questions sanitaires, des questions de biodiversité. Et ce qui est troublant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a 2 grandes politiques européennes qui façonnent le territoire, la politique agricole commune et la directive cadre sur l'eau. Voilà, deux politiques très puissantes et qui sont en opposition totale.
En opposition ?
Sur la question de la qualité écologique de l'eau, la PAC se désintéresse de la question de la qualité de l'eau et même promeut un système agricole qui dégrade, qui disqualifie la ressource en eau. Alors que la directive cadre sur l'eau, elle, au contraire, engage, incite, contraint les États à protéger les rivières, les nappes phréatiques, aussi bien au niveau des pollutions que de la vie, que de la qualité biologique des cours d'eau.
C'est intéressant ce que vous dites là, Dominique Marché, mais vous dites que les deux sont très puissantes. Il me semble que la PAC est peut-être plus puissante que la directive cadre des eaux, puisque, par exemple, la France, qui ne la respecte pas depuis des années, n'a encore jamais payé 1 centime d'amende.
J'espère qu'elle finira par payer. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai. Mais la directive cadre sur l'eau est puissante dans le sens où le droit national doit quand même s'y conformer. Et d'ailleurs, il y a une séquence dans le film, une commission locale de l'eau, où c'est ça l'enjeu, c'est un nouveau classement de rivières qui est imposé par la directive cadre sur l'eau. Et ça a des conséquences très, très concrètes sur les territoires et sur l'élevage. Enfin, tout le monde s'inquiète de ça parce que la grande question, enfin le projet aujourd'hui de la directive cadre sur l'eau, entre autres, c'est de restaurer les continuités écologiques le plus possible, qui sont les bassins versants sont discontinus maintenant en France. On dit qu'il y a un seuil tous les kilomètres en moyenne. Donc des seuils, c'est des barrages. Ça peut être des barrages très anciens, très petits, mais qui sont quand même autant d'obstacles pour les poissons migrateurs, mais aussi les poissons. On parle toujours des saumons, des grands migrateurs, mais en fait, chaque espèce, chaque variété végétale et chaque espèce animale a son, elle-même a son écosystème et se déplace à l'intérieur. Donc, la question de rendre transparent, c'est le vocabulaire administratif, les barrages, les seuils, est au cœur de cette réunion et de la directive 4 sur l'eau.
Et là, on voit bien justement la façon dont les échelles se rencontrent, ces directives cadres européennes, et ce petit groupe de personnes qui sont au bord d'une minuscule petite rivière, où on sent la force de la rancœur et du refus des agriculteurs qui sont présents, par exemple, d'entendre qu'il faut qu'ils changent leur façon de travailler au bord de cette rivière.
Oui, ça vous fait référence à une scène qui est importante, effectivement, où on est vraiment dans le conflit d'usage. Il y a eu des petits travaux d'aménagement sur des cours d'eau, des travaux qui sont faits avec des fonds qui viennent de l'agence de l'eau, des fonds très locaux, communauté de communes, puis agence de l'eau, parc naturel régional, et on arrive jusqu'à l'Europe. En fait, toutes les échelles sont impliquées dans ce type de travaux qui semblent presque rien. C'est l'aménagement d'un guet pour faire passer le troupeau, mais en fait, c'est extrêmement important parce que ça permet que les vaches ne remuent pas le fond de la rivière, ne pollue pas l'eau, et ça permet de préserver des variétés qui sont en voie de disparition, comme les moules perlières ou les écrevisses à pied blanc. Et autour de ces rivières qui font quelques centimètres de large, il y a 25 personnes qui se réunissent, de la police de l'eau, l'ONEMA, des ingénieurs spécialisés dans l'environnement, des agriculteurs, des responsables, des techniciens de la communauté de communes, etc. Et ce qu'on voit, je pense, clairement dans cette réunion, c'est justement ce dont je parlais, cette opposition entre la PAC, la politique agricole, et la DCE, puisque les agriculteurs, les éleveurs ont coupé les arbres, la ripisylve, les arbres qui étaient le long du cours d'eau, sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Et ce qui fait du tort à la rivière, ça réchauffe l'eau et ça accélère le processus de disparition des moules perlières. Mais en fait, la raison, c'est que c'est lié à la PAC, c'est lié à la politique agricole commune. C'est pour ça que les agriculteurs n'aiment plus les arbres. Ceux qui les gardaient ont pu connaître, où il y a beaucoup de récits qui circulent, de contrôle PAC, où des contrôleurs venaient et disaient « mais vous avez annoncé une surface agricole de tant d'hectares, mais il faut déduire cet arbre, déduire cette haie, déduire ce rocher, etc. » Et ça, ce sont des choses que les agriculteurs ont très mal vécues, et ils ont répondu souvent à ce type de contrôle avec une tronçonneuse. Je pense qu'aujourd'hui, les contrôles ne se font plus de la même manière. Il y aurait peut-être un peu plus de tolérance, mais néanmoins, le pli est pris. Et il y a cette idée que les arbres, c'est quelque chose qui coûte, en fait, qui va avoir un impact sur la prime qu'on va toucher par la politique agricole. Donc là, on voit vraiment, effectivement, comment les incitations, les primes PAC, peuvent induire des comportements qui nuisent à la qualité de l'eau et à la biodiversité.
Ce qu'on voit surtout, c'est, me semble-t-il, c'est la façon dont ces directives s'incarnent, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà d'un pli qui serait pris ou... Ça a affecté les existences, et les existences ont été modelées par ces directives. Et de fait, pour ces agriculteurs à qui on annonce brusquement que il va falloir remettre des arbres parce que la rivière est en train de mourir, ils se sentent bousculés, me semble-t-il. On a l'impression vraiment qu'ils sont heurtés, et ils disent par exemple « il n'y a jamais eu de poisson ici, donc pourquoi est-ce qu'on ferait ça ?» Parce que de fait... Quand un dégât a été commis, le point zéro, ça devient celui-là, celui du dégât déjà commis, et on peut recommettre d'autres dégâts derrière.
Oui, là, effectivement, il y a quelque chose qui a été très troublant pour moi, c'est-à-dire que les éleveurs, et y compris le plus âgé de ces éleveurs, qui a peut-être 70 ans, dit « il n'y a jamais eu de poisson ici ». Et ce que nous apprend le policier de l'eau, c'est que la disparition des poissons migrateurs dans ces cours d'eau-là date d'avant 1920. Donc ça change l'idée qu'on se fait de la catastrophe écologique. On a tendance à dater plutôt de l'après-guerre. Et là, à ce moment-là, sur un cas très concret, on comprend que c'est l'installation des premiers grands barrages hydroélectriques au début du XXe siècle qui ont stoppé net la circulation des poissons. Donc maintenant, depuis quelques décennies, on installe des passes à poissons, donc on peut voir les migrateurs reconquérir et des poissons revenir dans certaines têtes de bassin. C'est ça qui est important, c'est-à-dire la question de l'évaluation de l'état du monde, parce qu'on est déjà trop loin ou trop enfoncé dans la perte de la biodiversité, dans l'érosion des espèces, pour se contenter de se référer à notre expérience vécue, fût-ce celle du grand-père. Voilà, on en arrive là. Et ça, je me souviens d'un éleveur que j'avais rencontré lors d'un débat après le plan des grâces, qui m'avait raconté quelque chose. C'était en Bretagne, j'avais parlé de l'arasement des talus, et il est venu me voir en me disant, moi je vous dis tout de suite, j'en ai fait sauter des talus, je le cache pas. Et en même temps, on voyait qu'il se questionnait, qu'il était très troublé. Et c'était un homme qui avait une quarantaine d'années et qui me dit, je m'inquiète beaucoup pour la suite, parce que, alors même que je faisais sauter ses talus, comme il me disait, j'avais quand même toujours comme référent mon grand-père qui travaillait autrement. Mais ceux qui vont nous suivre, il paraît de ses enfants, n'auront d'autres référents que lui et son père. Donc ne seront freinés par rien. Aucune autre façon de faire de l'agriculture ne leur viendra à l'esprit. Donc on est dans un système sur lequel il devient de plus en plus difficile d'agir parce que les individus eux-mêmes ont une représentation de plus en plus simplifiée de l'agriculture et de leur territoire.
Parce que les indices viennent à manquer. Oui. On va avancer, Dominique Marché, puisque cette scène qu'on a évoquée, elle est située au début du film et elle est située à un moment où la rivière est encore toute petite. Vous parliez de ces grands barrages hydroélectriques. Pour l'instant, on ne les a pas encore vus. Et on a vu la difficulté qu'il y a à observer justement le peu de vie qui reste. Le film s'ouvre sur deux jeunes gens en train de scruter le fond des eaux à travers des espèces d'outils un peu étranges, presque cocasses, orange vif, qui permettent de repérer les ultimes moules perlières. On arrive à peu près à en distinguer une, mais c'est très difficile après avoir longuement arpenté l'eau. Un peu plus tard, on voit une sorte de laboratoire ultra-moderne dans lequel les écrans et les clignotements sont multiples. Et c'est justement l'observatoire d'une passe à poissons où, à un moment, va s'afficher sur un des écrans, de manière très floue, là aussi, une silhouette, une vague silhouette de poissons. Vous le disiez, la catastrophe est très avancée, déjà. Elle n'est pas terminée, elle continue. Et de fait, à mesure qu'on avance dans le film, on s'aperçoit que ces conflits de territoire, ces conflits d'usage se reproduisent à l'infini et surtout dans une sorte de gamme incroyable de motifs. C'est comme si on était là d'une richesse incroyable pour trouver des motifs de conflits d'usage. Il y a une autre scène, me semble-t-il, qui est terrible, c'est tout ce qui se passe autour de Châteauroux. Aujourd'hui.
Alors d'abord la passe à poissons. Effectivement, c'est un peu le pendant de cette scène inaugurale où on voit des jeunes techniciens du parc naturel de Mille Vaches scruter avec un bathyscope le fond de la Vienne pour trouver les. Voilà, on a un rapport médiatisé quoi, à la nature. On ne peut plus avoir une expérience directe à la vie aquatique. Dans le film, on voit Bernard Rousseau qui est un environnementaliste.
Spécialiste de l'eau,
qui racontait sa jeunesse dans les années 40 sur les bords du Loiret et la profusion de vie et comment sa vocation scientifique, puisque c'est un savant, était certainement le fruit de ses heures à jouer et à observer la nature au bord du Loiret. Il dit aujourd'hui, il n'y a plus rien. L'eau est transparente, certes, beaucoup plus transparente que dans les années 70 parce qu'il y a des stations d'épuration, mais plus
morte.
Voilà, comme il le dit dans le film, une eau transparente ne veut pas dire une eau propre. Et donc la passe à poissons, c'est bien ça, c'est la caméra qui médiatise notre rapport à la nature, qui nous permet de voir les poissons lorsqu'ils passent. Alors, ceux qui arrivent à passer, c'est une association qui s'appelle Logrammy qui s'occupe de ça, qui font des comptages chaque année, qui mettent des capteurs sur certains poissons pour voir combien arrivent à remonter la rivière jusqu'à la zone de frayage. Il y en a très peu, c'est une hécatombe. Alors, la grande question, c'est celle de... Il y a deux temporalités, quoi, voilà. Ces militants vraiment précieux, comme les gens de l'Ogrammy ou Bernard Rousseau, qui participent à toutes ces réunions, à toutes ces instances sur l'eau, le font parce qu'ils considèrent que c'est un lieu d'acculturation et que petit à petit, les idées environnementalistes gagnent du terrain. Et en même temps, ils le font en ayant une conscience claire et douloureuse de la lenteur du processus, alors que le processus de destruction de la nature, lui, va s'accélérant. Là, c'est vraiment, il y a quelque chose d'irréconciliable, enfin de très inquiétant, auquel personne n'a vraiment de réponse. Et quant à Châteauroux, et bien Châteauroux, donc il y a beaucoup de réunions dans le film, et toutes les réunions ne se valent pas.
J'aimerais vous expliquer ça. Moi, ce à quoi j'ai pensé en voyant ce film, c'est drôle, il nous montre l'eau qu'on ne voit jamais, et il nous montre des réunions qu'on ne voit jamais non plus.
Oui, oui, ben voilà, alors ça, j'ai voulu voir ce que ça voulait dire, démocratie participative, à force de l'entendre. Je me doutais bien quand même que ça ne voulait pas dire grand-chose, en tout cas en France. Les gens qui font vraiment de la concertation n'ont pas besoin du terme. Quand on est à Faux-la-Montagne et qu'on se réunit pendant 2 ans pour réfléchir à la façon dont on va construire un nouveau quartier, on n'appelle pas ça démocratie participative. C'est de l'intelligence collective et ils font un quartier qui va durer et qui a été bien pensé. Quand on dit démocratie participative, réunion publique, d'information, généralement tout a déjà été décidé. Et c'est du marketing. C'est des stratégies de marketing, de com, pour réussir à circonscrire les paroles les plus véhémentes. La seule chose qu'on a réussi à gagner, c'est à faire taire ceux qui parlaient un peu trop fort. Je crois que c'est tout. Les gens n'ont pas participé au projet, en l'occurrence donc un projet de zone d'installation de zone d'activité, un de plus, 500 hectares de zone logistique.
Pour installer ces espèces d'énormes boîtes aveugles auxquelles viennent s'aboutir les camions, tout aussi aveugles, qui transportent des choses. Et ça, c'est sur des terres agricoles.
Oui, bien sûr, toujours. Toujours, toujours. Je dirais vraiment le postulat du film, c'est... Il y a quelque chose de très injuste dans l'attention, le privilège qu'on accorde à la ville aujourd'hui. Voilà. Alors la ville, on va la soigner, enfin si possible les centres-villes, hein, surtout les centres-villes, évidemment, qu'on connecte les uns aux autres avec des grandes infrastructures. Ça c'est. Et puis on se désintéresse de la banlieue, on se désintéresse du périurbain et on se désintéresse totalement du rural qui existe encore, n'en déplaise à certains. Et donc, on dit construire la ville sur la ville, mais on ne dit pas construire l'industrie ou la logistique sur la logistique. Donc, des bâtiments logistiques sont obsolètes très rapidement. Et qu'est-ce qu'on fait ? On construit un peu plus loin. Donc,
on laisse des friches.
Voilà, on a des friches logistiques dans toute la campagne, des sols pollués, donc des espaces qui sont perdus pour très longtemps, en tout cas. Pour l'agriculture, et en tout cas pour les réhabiliter, requalifier, il faudra dépenser beaucoup d'argent, dépolluer, etc. On voit bien que ce n'est pas un modèle de développement intéressant. L'élu de Châteauroux, c'est difficile de lui jeter la pierre, puisque finalement, le discours qu'il tient, c'est vraiment le discours dominant, c'est le discours de l'État, c'est le discours des maires des grandes villes, c'est la course à l'emploi, l'emploi à tout prix. Avec cette conviction que l'agriculture ne peut plus permettre la création d'emplois. On ne questionne pas le modèle agricole existant, alors qu'évidemment, si on pense à l'agriculture biologique, par exemple, si on pense à redévelopper du maraîchage autour des grandes villes, on peut faire de l'emploi avec de l'agriculture, et c'est un emploi. Alors, est-ce que ça fait plus ou moins d'emplois qu'une plateforme logistique ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un emploi qui ne disqualifie pas la ressource, au contraire, qui la valorise. Et puis, toutes ces questions de plateforme logistique, c'est-à-dire que toutes les villes font ça simultanément sur tout le territoire. Châteauroux, c'est la France. C'est comme ça qu'on parle, et c'est comme ça qu'on pense, et c'est comme ça qu'on procède un peu partout en France, en Bretagne, partout.
Tout à l'heure, vous évoquiez, Dominique Marché, ces futurs jeunes paysans qui n'auront d'autres modèles que... celui de parents, de grands-parents qui auront détruit le bocage, détruit la vie des rivières. Et là encore, le parallèle est assez frappant dans le film. On voit une jeune femme, une toute jeune femme, Elle parle peut-être 1 minute 30 maximum dans le film. Et c'est saisissant. Parce que c'est une jeune femme qui, dans une réunion, encore une énième réunion, explique les projets de développement, peut-être de cette zone logistique ou peut-être d'une autre, je ne sais même plus. Simplement, en 1 minute 30, elle fait des phrases qui n'ont ni queue ni tête, qui sont exclusivement du jargon administrativo, marketino, je ne sais trop quoi. Et c'est saisissant parce que tout à coup, on se rend compte du formatage que ça représente et de la difficulté que ce sera de retrouver quelque chose qui soit davantage en prise avec la vie, en prise avec les émotions, avec les besoins de l'existence.
Oui, oui. Il y avait plusieurs choses que je voulais voir, effectivement. Je voulais voir que se passe-t-il dans les passes à poissons, que se passe-t-il dans ces grosses boîtes qu'on voit au bord de la route, qu'on appelle plateforme logistique, que se passe-t-il dans les réunions. Il y a vraiment un déficit de représentation. Il y a des choses qui se passent en permanence en France, qui sont très intéressantes, très importantes, plus intéressantes que les remaniements ministériels ou les primaires des partis politiques, vraiment. Et il faut regarder ça sans angélisme. Enfin, voilà, il y a des bonnes volontés et puis il y a des blocages systémiques. Et il y a effectivement, le film montre des nouveaux métiers de l'environnement. Donc ces jeunes hommes dont on parlait qui tantôt font des comptages, des recensements de moules perlières ou font de l'arrachage de jussies, de plantes invasives à d'autres endroits. C'est des métiers, je pense qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas... Ce sont des emplois locaux, on va travailler pour des syndicats de rivière. Et puis parmi ces nouveaux emplois, il y a aussi tous ces gens qui travaillent pour des agences dites d'urbanisme et qui concoctent des plans locaux d'urbanisme pour les communes rurales, les intercommunalités. Et j'en ai filmé beaucoup des réunions comme celle-ci pour en garder une ou deux dans le film. On y parle toujours de la même façon. Voilà, quand je dis Châteauroux, c'est la France, c'est que vraiment, c'est comme ça que ça se passe tout le temps et partout. Oui, un langage qui met à distance la réalité territoriale. C'est tout un tas de mots valises, de formules effectivement un peu creuses pour ne pas parler de ce qui est important, c'est-à-dire d'ici et de ce qu'on va en faire.
Et là aussi, mettre à distance à travers des écrans.
Bien sûr, évidemment. Alors mais c'est partout. C'est dans les entreprises, c'est dans les administrations. C'est le fameux les slides là,
les PowerPoint.
Les PowerPoint, c'est ça. Voilà la pensée PowerPoint, ouais. Comme on dit. Mais ça, c'est vrai. Ouais. Et dans les réunions, c'est beaucoup comme ça. C'est beaucoup, sauf quand on a effectivement des élus ou des dynamiques locales avec des gens qui ont pris la mesure de ça. Et qui réfléchissent beaucoup, parce qu'en fait, peut-être que maintenant, la priorité, ça va être ça, d'avoir une vraie réflexion sur la méthode et la démocratie. Comment on fait pour ne pas tomber dans ce panneau-là, pour ne pas tomber dans les pièges du langage, pour faire en sorte que ces réunions ne soient pas du temps perdu? Comment fait-on pour arrêter de se payer de mots, en fait? Et effectivement, il faut y passer du temps, il faut se réunir, mais il faut beaucoup réfléchir à la méthodologie. Et c'est ce qu'on voit à Faux la Montagne. C'est des gens qui réfléchissent à comment on va se réunir pour faire les choses ensemble. Il ne suffit pas de se réunir, parce que tout de suite, maintenant, il y a des professionnels de la réunion. J'ai assisté à beaucoup de réunions comme ça, c'est extraordinaire. Le temps est complètement découpé en petits modules, qui fait qu'on n'a plus le temps de penser, plus le temps de parler. Quand on fait des ateliers, plein d'ateliers, mais... À partir du moment où les gens commencent à se connaître et à échanger, il y a quelqu'un qui arrive avec son sifflet et qui sonne la fin de l'atelier. C'est très bien fichu pour qu'il ne se passe rien. Et ça, c'est effectivement, c'est ça qu'on appelle la démocratie participative. C'est ni démocratique et surtout pas participatif.
Mais vous le dites, Dominique Marchais, il y a quelques lieux en France, dont Faux la Montagne, où autre chose s'élabore, ce travail.
Oui, oui, oui. Alors, bien sûr, mais je dirais même, il y a des lieux... La commission locale de l'eau qu'on voit en Loire-Atlantique, pour moi, c'est un espace très intéressant, très vivant. Déjà parce que, justement, c'est un endroit qui représente l'état d'un territoire à un moment donné. Il y a ce tour de table à la fin du film. On voit bien qu'effectivement, ce sont quasiment exclusivement des hommes de plus de 60 ans qui siègent à ces réunions. Mais néanmoins, il y a du conflit entre des élus périurbains, des agriculteurs, des environnementalistes, des techniciens de l'État. Et c'est pas du tout la même chose que la réunion publique de démocratie participative, ces commissions locales de l'eau. Ce sont des moments, comme disait Bernard Rousseau, c'est peut-être un abus de langage de parler de démocratie de l'eau, mais néanmoins, ce sont des lieux importants parce que ce sont des lieux d'acculturation. Quand je dis toutes les réunions ne se valent pas, effectivement, il y a Faux-la-Montagne, on est vraiment dans une pratique, en l'occurrence d'éco-construction, mais presque le plus important, c'est de co-construction. Ça, et à partir du moment où on fait de la co-construction très réfléchie, il y a de fortes chances pour qu'elle soit éco. Mais il y a aussi effectivement des lieux de conflit, comme ces commissions locales de l'eau, et de délibération. Et il faudrait, pour les évaluer, les observer sur des temps assez longs, 10, 15 ans, voir d'où ils sont partis, quelle était la situation de la gouvernance territoriale il y a 20 ans autour du bassin de Grandlieu, où on en est maintenant. Et comme dit l'élu qui préside cette réunion, parle très bien de ces questions de méthode, disant qu'il vaut mieux faire des petits pas, mais les faire avec le plus de monde possible, c'est-à-dire environnementalistes, agriculteurs, néo-ruraux. Parce que là, ce pas-là, on reviendra pas en arrière, quoi. Voilà. Il est fait pour de bon. Et dit que ce qui est très important au niveau local, c'est quand les gens oublient l'endroit dont on est parti. Ça veut dire qu'ils se sont appropriés le processus. Moi, je ne suis pas pessimiste sur la qualité de la vie politique locale, ou sur la qualité de la vie associative locale. Il y a beaucoup de bonne volonté, aussi bien chez les agriculteurs que chez les élus, etc. Ce qui est plus compliqué, c'est la question de l'emboîtement des échelles, de comment mettre en réseau ces expériences et comment faire en sorte qu'il y ait des effets d'entraînement. C'est vraiment un problème d'organisation qui se pose à nous. C'est pour ça qu'il faut, je pense, aujourd'hui réfléchir à la nature de notre démocratie et à la façon dont elle fonctionne en tant que système.
Voilà, cette émission est terminée. Vous pourrez la télécharger, la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Anil Bosselet, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.